Jérémie, chapitre 10, versets 23 et 24. Éternel, je connais que la voie de l'homme ne dépend pas de lui, et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. Ô Éternel, châtie-moi toutefois avec mesure, non pas en ta colère, de peur que tu ne me réduises à néant. Puisse le Seigneur nous accorder, encore une fois, en ce sabbat, la lumière pour comprendre sa parole. Nous avons un grand besoin de marcher avec Dieu. C'est ce que nous avions lu la dernière fois, que notre grand besoin aujourd'hui, ce sont des hommes qui sont baptisés du Saint-Esprit, des hommes qui marchent avec Dieu, comme le faisait Enoch. C'est notre grand besoin de parler à Jésus et de répondre à son amour en marchant avec lui. C'est très facile, trop facile, d'aborder ce sujet et de croire que nous avons épuisé tout ce qu'il y avait à dire sur notre besoin de marcher avec Dieu, et peut-être avons-nous l'impression que nous avons accompli cette exigence de Dieu. Nous pensons peut-être, oui, je marche avec Dieu, je marche avec Dieu, je marche avec toi, Seigneur. Mais si vraiment nous faisons ce que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire être baptisés du Saint-Esprit, et Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit de Jésus qu'il baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit et de feu, eh bien, lorsque nous marchons avec Dieu, ce qui se passera, c'est que nous ne marcherons pas avec lui de manière superficielle, mais que nous aurons avec lui une communion intelligente. Et c'est l'objet de notre étude aujourd'hui. Nous voulons savoir ce que cela veut dire de manière pratique d'avoir et d'entretenir une communion intelligente avec Dieu, de marcher avec lui en toute réalité. Que disait notre lecture biblique ? Ô Éternel, Jérémie, chapitre 10, verset 23. « Éternel, je connais que la voie de l'homme ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui marche de bien diriger ses pas. » Donc l'homme est un homme qui marche, mais il n'est pas en son même pouvoir de bien diriger ses pas. Donc il a la capacité de marcher, mais il n'a pas le pouvoir, la capacité de bien diriger ses pas. Et donc c'est pour cela que Jérémie s'écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Je sais, je connais que la voie de l'homme, elle ne dépend pas de lui. Comment ça? La voie de l'homme ne dépend pas de lui, c'est-à-dire qu'il est sujet à des forces qui sont au-delà de son pouvoir. C'est ce que nous voulons examiner aujourd'hui, attentivement, parce qu'il dit, ô Éternel, châtie-moi toutefois avec mesure, non pas en ta colère, de peur que tu ne me réduises à néant. Quel est ce châtiment dont il est question ici ? Avec mesure. En anglais, le mot ici qui est traduit par avec mesure, c'est with judgment. C'est-à-dire, châtie-moi avec jugement et non pas dans ta colère. Châtie-moi avec un éclaircissement. Châtie-moi avec de la lumière. Châtie-moi en me révélant à moi-même. Châtie-moi toutefois avec mesure. Montre-moi la mesure de ta loi. Et ta loi me plongera dans le sentiment et la réalisation de mon incapacité. Mais tu ne me réduiras pas à néant, tu ne me détruiras point, mais tu me châtieras en me révélant les travers de mon âme. Oui, nous avons un grand besoin de marcher avec Dieu. Et Jésus a dit, si vous voulez me suivre, si vous voulez marcher avec moi, vous devez renoncer à vous-même et prendre votre croix. Donc, qu'est-il compris dans une marche réelle et véritable avec Dieu? Qu'est-ce que cela comprend? Qu'est-ce que cela implique? Face à quoi, face à quelle expérience nous retrouverons-nous lorsque nous marchons avec Jésus? Quelle sera notre vie spirituelle lorsque nous répondons à ce besoin qui est d'avoir des hommes baptisés du Saint-Esprit, des hommes qui marchent avec Dieu comme le faisait Enoch? Marcher avec Dieu. On aime en parler, on aime l'imaginer, mais pouvons-nous et sommes-nous prêts à le faire? Jésus a dit, quand il y avait tous ses disciples nombreux autour de lui, « À moins que vous ne mangiez de ma chair et que vous ne buviez de mon sang, vous n'avez pas la vie en vous, vous n'avez aucune part avec moi. » Et quand il a dit cela, les 70 autres disciples ont cessé de marcher avec lui. Ils ont cessé de marcher avec Jésus parce qu'ils ont compris ce que Jésus voulait dire quand il les appelait à marcher avec lui, à le suivre. Sans plus tarder, on va tout de suite se tourner vers les paroles de l'inspiration dans l'esprit de prophétie. Dans le livre « Conseil à l'Église », à la page 279, au paragraphe 5. Parce que maintenant, nous voulons comprendre et lever le voile sur certains de nos problèmes pour que le Seigneur nous aide à vaincre, à obtenir la victoire sur nos défauts qui nous empêchent de marcher vraiment avec Dieu. Je lis ici, Conseil à l'Église, 279, paragraphe 5. Dans le ciel, Dieu est tout en tous. La sainteté y règne en souveraine. Rien n'y vient troubler l'harmonie parfaite avec Dieu. Si nous cherchons à atteindre ce but, l'Esprit du ciel habitera en nos cœurs ici-bas. Mais si nous n'éprouvons aucun plaisir maintenant à contempler les choses célestes, si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, si nous ne prenons aucun plaisir à contempler le caractère de Christ, si la sainteté n'a aucun attrait pour nous, soyons assurés que notre espérance du ciel est vaine. Qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce qu'est Dieu dans le ciel? Dans le ciel, Dieu, il est tout en tous. C'est-à-dire que c'est l'objet principal des affections de tous. Il est tout pour tous. Ça veut dire que pour n'importe quelle personne que vous choisissez, Dieu est tout pour cette personne. Dieu est tout en tous. La sainteté règne dans le ciel en souveraine. Rien ne vient troubler l'harmonie parfaite avec Dieu. C'est-à-dire que dans le ciel, tout le monde marche avec Dieu. C'est ça l'esprit du ciel. Et donc, elle nous dit, si nous cherchons à atteindre ce but, si nous marchons vers ce but, si nous voyageons vers cet appel, cette vocation céleste, si c'est vraiment cela, notre élan, notre but, l'Esprit du ciel habitera en nos cœurs ici-bas. Donc ce qui les anime en haut, si nous marchons vers ce but-là, cela animera aussi nos cœurs ici-bas, aujourd'hui, ici. Mais si nous n'avons aucun plaisir maintenant à contempler ces choses célestes, si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, si nous ne prenons aucun plaisir à contempler le caractère de Jésus, et si la sainteté n'a aucun attrait pour nous, alors on nous dit que notre espérance du ciel n'est pas véritable. Elle est vaine. Elle est vaine parce qu'elle n'est pas fondée sur ce qui anime le ciel. Donc elle est vaine. Elle n'est pas vraie. Elle n'est pas bien fondée. Ce n'est pas vraiment le ciel que nous attendons. Nous avons une imagination du ciel, mais ce n'est pas le ciel. Parce que dans le ciel, Dieu est tout en tous. Est-ce que Dieu est tout pour moi? Si Dieu n'est pas tout pour moi, alors mon espérance du ciel est vaine. Elle est infondée. Parce que ce que j'espère de ce que je crois être le ciel, ce n'est pas vraiment le ciel. Parce que le ciel, la sainteté règne en souveraine dans le ciel. Et donc, cela met à l'épreuve, Dieu éprouve, vous voyez, il nous châtie en mesure, avec mesure. Il nous montre, si tu ne prends pas plaisir à contempler le caractère de Jésus, à contempler les choses célestes, alors tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'une transformation pour que ton espérance, elle soit fondée à l'intérieur de toi, parce que tu chéris, tu nourris l'esprit qui régit le ciel. Et donc, pour élargir cela, j'aimerais qu'on se tourne vers Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Parce que là, on nous dit, on parle de certaines choses, de contempler les choses célestes. Qu'est-ce que c'était? Si la connaissance de Dieu ne présente aucun intérêt pour nous, et prendre plaisir à contempler le caractère de Christ. Donc ce sont des choses qui ont à voir avec une activité intellectuelle et personnelle et intérieure des pensées de mon âme. Quelles sont mes pensées? L'esprit de prophétie nous dit ici que Si mes pensées ne sont pas sur ces choses, qu'elles ne sont pas fixées sur ces choses, mon espérance du ciel, elle est vaine. Donc j'ai besoin, l'appel, c'est que nos pensées soient fixées, soient accaparées, soient concentrées sur ces choses-là, qui sont mon espérance. Si vraiment ces choses sont mon espérance, alors j'ai besoin de remplir mon espérance d'une réalité. C'est-à-dire que j'ai besoin de me remplir moi-même de pensées de ces choses qui sont mon espérance. Est-ce que je les espère ou est-ce que je rêve? Vous savez, quand j'étais jeune et que j'étais à l'école primaire, on me disait souvent, Victor, il a la tête dans les nuages. Et je sais très bien que ce n'est pas, il n'y a pas que moi. Mais quel nuage? Dans quel nuage ai-je la tête? Est-ce que ce sont mes nuages ou est-ce que ce sont les réalités que la parole de Dieu nous donne sur les choses célestes, les choses de Jésus-Christ, le caractère de Dieu, la connaissance de Dieu? Où est-ce que ma tête, elle est? Dans quel nuage est-elle? Est-ce que notre tête est dans les nuages de notre propre imagination? Où sont mes affections? Donc je lis Philippiens 4, verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation, et où il y a quelques vertus, et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Que quelles choses occupent mes pensées? Est-ce que vous avez la liste dans votre esprit? Est-ce que à chaque fois que vous pensez à quelque chose, c'est pur? Est-ce que à chaque fois que des choses occupent vos pensées, ce sont des pensées véritables, des choses honnêtes, des choses justes, des choses pures, des choses aimables, de bonne réputation, vertueuses, dignes de louange? C'est celui-là l'appel. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que nous croyons à cela? Alors si nous croyons, le Seigneur nous dit, si ces choses ne sont pas tes pensées, ton espérance est vaine. Mais il ne s'arrête pas là. Et ne nous arrêtons pas nous-mêmes là, en nous condamnant nous-mêmes et en désespérant nous-mêmes. Nous voulons continuer et garder l'oreille bien tendue, bien ouverte, pour laisser ces choses nous arrachent le cri de notre sentiment de besoin. Est-ce que vous sentez l'épée de la parole de Dieu? Ne la mettez pas dans un étui. Sortez-la de son fourreau et laissez-la trancher dans la chair les passions et les désirs de la chair. Le Seigneur nous châtie avec mesure. Ce n'est pas dans l'homme de marcher bien comme il faut. Ce n'est pas en son pouvoir. Et donc, si je veux marcher bien droit, bien diriger mes pas, j'ai besoin que le Seigneur dirige mes pas. Et pour que le Seigneur dirige mes pas, il faut que moi-même je supplie le Seigneur qu'il dirige chacun de mes pas. Autrement, je marcherai selon mes propres désirs, mes propres envies, mes propres habitudes, mes propres travers. Le Seigneur veut nous châtier. Parce qu'il est écrit dans Hébreux, celui qu'il châtie, c'est celui qui l'accepte et qui le reçoit. Donc ne soyons pas découragés si le Seigneur me châtie et que je me sens châtié. Ne soyons pas découragés. Il veut nous adopter. Il est en train de nous adopter à travers ce processus. Ouvrons nos cœurs à ces choses-là. Et donc, lorsque nous entendons l'appel, quelle est notre réponse? Quelle est notre réponse? Nous entendons cet appel, des choses pures, des choses véritables, des choses saintes, des choses aimables, honnêtes, de bonne réputation, mais je n'ai pas pensé comme ça. C'est ça la réponse de l'homme naturel. Je n'ai pas fait ça, Seigneur. Romains, chapitre 7. Romains chapitre 7, verset 14. Nous voyons cette loi spirituelle qui est sublimement exprimée par les paroles de l'apôtre Paul et nous disons, oh, c'est super, c'est bien, mais je n'ai pas fait ça. C'est ça que je veux faire, mais je ne l'ai pas fait. Il dit ici, en effet, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. La loi, je sais, elle est spirituelle. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'approuve ces choses. Mais alors moi, mais j'ai vraiment pas fait ça. Pourtant, j'approuve. Ça, c'est le langage de l'homme converti qui se retrouve confronté au combat entre l'esprit et la chair. Il faut admettre ces choses-là, frères et sœurs. Si nous n'admettons pas ces choses-là et que nous n'acceptons pas le combat, désolé, notre espérance, elle est vaine. Nous n'avons aucun ciel prévu pour nous sur le tableau. C'est ça la réalité. Il faut voir les choses en face. Le Seigneur, il me dit, je vais te châtier. Est-ce que tu es prêt à être châtié? Et quand il sort la verge, c'est très possible que nous disions, désolé, moi je ne te connais pas, Seigneur. Mon Dieu, il ne me châtie pas. Voyez le genre d'imagination qui traverse l'esprit des gens qui se professent chrétiens aujourd'hui. Ce n'est pas ça, la religion de la Bible. Je suis désolé. Le Seigneur sort la verge et il dit, est-ce que j'ai le droit? C'est comme ça qu'il fait Dieu. Dieu, il ne fait pas, je te frappe, que tu veuilles ou pas. Dieu, il dit, est-ce que tu veux que je te châtie? Et nous sommes libres de dire, Seigneur, je t'aime, vas-y, explique-moi, révèle-moi ta volonté. Et c'est cela, la verge. Il me montre la loi, et la loi me fait mal parce que je réalise que je n'ai pas fait ce que la loi me dit de faire. Verset 15. Car je n'approuve point ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. Verset 18. Car je sais que le bien n'habite point en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Parce que j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. J'ai la volonté. Le Seigneur a dit aux disciples quand il était dans le jardin de Gethsémané, veillez et priez. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus, dans son amour, il disait, mes bien-aimés disciples, vous dormez. Oh, j'ai pitié de vous. Vous entendez l'amour du Seigneur? Laissons-nous toucher par cet amour pour que cet amour accapare nos pensées. C'est ça le but. Dieu veut que la loi fasse tellement mal à mon cœur orgueilleux et suffisant que je brise sur le rocher et je dis, Seigneur, j'ai dormi là. Et il dit, oh mon bien-aimé disciple, je compatis avec toi. J'ai été touché, je suis touché par tes infirmités. J'ai pris la même chair dépravée de péché. Regarde à moi. Cette victoire, partageons-la ensemble. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Que si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, verset 21, je trouve donc cette loi en moi, que c'est que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et qui me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, verset 24, c'est le cri du summum de l'expérience de celui qui a été confronté à la réelle réalité de la loi et des exigences de la loi de Dieu. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Pour en arriver là, il faut ouvrir son cœur à la voix de Jésus. Et donc, si nous ouvrons notre cœur aux avances de Dieu envers nous, en ce qu'il s'approche de nous et nous parle doucement, calmement, les révélations des exigences de sa parole que nous n'avons pas satisfaites, eh bien nous trouvons, lorsque nous nous ouvrons nos cœurs à cela, nous trouvons cette loi en nous. C'est la loi de la chair. C'est la loi de l'hérédité. C'est la loi que j'ai des choses qui sont inscrites dans ma nature humaine que je n'arrive même pas à discerner en dehors de la lumière de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons constamment besoin de revenir à la parole de Dieu pour que le Seigneur nous guide. Nous guide en nous aidant à comprendre ce qui nous arrive. Et ici, l'apôtre comprenait ce qui lui arrivait et sous l'inspiration de l'Esprit, il déclarait « Je trouve donc cette loi en moi, c'est que je veux faire le bien. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » Cela s'appelle la chair de péché. C'est notre nature. Que vous soyez chrétien, croyant ou pas, c'est la nature dans laquelle et à laquelle vous devez faire face. Et donc c'est une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit, de mon homme intérieur qui prend plaisir à la loi de Dieu. Jésus disait, l'esprit est bien disposé, vous voulez faire le bien, mais attention, parce qu'il y a un combat. Et il faut absolument que vous soyez chaque instant sur vos gardes parce que vous avez dans vos membres une loi qui est la loi de la chair, la loi du péché, des passions de la chair, que vous avez à la fois hérité et que vous avez aussi cultivé. Et ces choses-là vont sans cesse aller à l'encontre de cet homme intérieur qui a été régénéré par l'Esprit de Dieu, qui a été placé à l'intérieur de vous par ce nouveau cœur. Il va vous falloir sans cesse combattre contre la chair pour maintenir l'homme intérieur en chef sur la nature inférieure humaine. Et donc, nous demandons, comment est-ce que je pourrais faire, comment est-ce que je vais jamais pouvoir faire ça? D'avoir ces pensées, d'avoir ces pensées pures, ces pensées saintes, ces pensées nobles, ces pensées aimable, c'est penser de ce qui est de bonne réputation, qui est vertueux. Si vous unissez tout comme un ensemble indissociable, vous voyez que il n'y a presque rien. La réponse de l'homme charnel, c'est que je ne peux rien penser à rien. Et en effet, si je cherche quelque chose à laquelle je puisse penser, qui soit en accord avec ma chair, je ne trouverai rien. Mais le but, ce n'est pas de faire des choses, de penser à des choses qui sont en accord avec ma chair, c'est de penser aux choses auxquelles je prends plaisir selon l'homme intérieur. Et donc la chair, les membres, cette loi en vous dira « Mais c'est abominable cette chose, il n'y a rien pour moi là. » Et il faut, lorsque nous avons ce sentiment, que nous nous souvenions constamment qu'il y a ce combat à livrer et que la chair aura constamment une opposition parfaite aux exigences de Dieu et aux choses auxquelles nous prenons plaisir selon l'homme intérieur, qui est Jésus en nous. Et maintenant, j'aimerais lire dans Ministère de la guérison, à la page 64, paragraphe 4. Le péché nous a séparés de la vie de Dieu. Nos âmes sont paralysées. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas plus mener une vie sainte que l'impotent n'était capable de marcher. Donc l'esprit de prophétie nous confirme là. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes mener une vie sainte. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes avoir ces pensées pures, nobles, saintes, etc. Comme nous avons lu dans Philippiens 4. Nous ne pouvons pas de nous-mêmes. De la même manière que l'homme, l'impotent, il ne pouvait pas marcher. Donc nous sommes comme lui parce que le péché nous a paralysé, nous a séparés de la vie de Dieu. Beaucoup se rendent compte de leur situation désespérée. Ils soupirent après cette vie spirituelle qui les mettrait en harmonie avec Dieu. Ils font des efforts pour l'obtenir, mais en vain. Désespéré, il s'écrie « Misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Que ces âmes qui se débattent, accablées, regardent en haut. Le Sauveur se penche sur ceux qu'il a rachetés par son sang, leur demandant avec une pitié et une tendresse inexprimable. Veux-tu être guéri? Il vous ordonne de vous lever en paix et en pleine santé. N'attendez pas de vous sentir guéri. Croyez à la parole du Sauveur. Mettez votre volonté du côté de Christ. Décidez de le servir et en agissant selon sa parole, vous recevrez la force. Quelle que soit la mauvaise habitude, la passion dominante qui par une longue indulgence ont maîtrisé l'âme et le corps, Christ est capable de nous en délivrer. Et il le désire ardemment. Il donnera la vie à l'âme morte dans ses fautes. Il libérera le captif retenu par la faiblesse, l'infortune et les chaînes du péché. Le sentiment du péché a empoisonné les sources de la vie. Mais Christ dit, je prendrai tes péchés. Je te donnerai la paix. Je t'ai acheté par mon sang. Tu es à moi. Ma grâce fortifiera ta volonté affaiblie. J'ôterai de toi le remords du péché. Quand les tentations vous assaillent, quand le souci et la perplexité vous environnent, quand déprimé et découragé vous êtes sur le point de céder au désespoir, regardez à Jésus. Et les ténèbres qui vous enveloppent seront dissipées par la lumière brillante de sa présence. Quand le péché veut dominer votre âme et alourdir votre conscience, regardez au Sauveur. Sa grâce est suffisante pour subjuguer le péché. Que votre cœur reconnaissant, tremblant d'incertitude, se tourne vers lui. Saisissez-vous de l'espérance placée devant vous. Christ attend pour vous adopter dans sa famille. Sa force soutiendra votre faiblesse. Il vous conduira pas à pas. Mettez votre main dans la sienne et laissez-le vous guider. Est-ce que vous avez retenu? Est-ce que nous avons retenu la leçon? Que lorsque nous nous sentons découragés à cause de cette réalisation de notre incapacité à marcher comme l'impotent, à marcher avec Dieu, à faire sa volonté, à vivre une vie sainte, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Croyez à la parole du Sauveur. N'attendez pas de vous sentir guéri. Mettez votre volonté du côté de Christ. Décidez de le servir. Et en agissant selon sa parole, vous recevrez la force. Quelle est sa parole? Veux-tu être guéri? Et qu'est-ce qu'il a dit à l'impotent? Lève-toi et marche. Donc lorsque la Bible me dit que toutes ces choses occupent vos pensées, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quand désespéré, je m'écris, misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que ces âmes qui se débattent, accablées, regardent en haut. Il faut que je regarde en haut. Il faut pas que j'attende de me sentir guéri. Mais il faut que je croie à la parole du Sauveur et que j'agisse selon sa parole. Et quand je ferai cela, comme l'impotent, je recevrai la force. C'est la promesse. Il faut que nous nous saisissions de cette promesse pour obtenir la victoire. Il désire ardemment nous délivrer. Christ attend pour vous adopter dans sa famille. Sa force soutiendra votre faiblesse. C'est une promesse. Dans, je crois que c'est 2 Pierre, chapitre 3, il est écrit que par les précieuses promesses, nous devenons participants à la nature divine. C'est une promesse. Et lorsque nous exerçons la foi en ces promesses, la foi vivante, comme cet homme impotent, nous recevons la force. Nous participons à la nature divine. Parce que sa force soutient notre faiblesse à travers cet échange de la foi. Et donc, il est écrit aussi dans Ministère de la guérison, page 65, paragraphe 2. N'ayez jamais le sentiment que Christ est loin. Il est toujours proche. Sa présence aimante vous entoure. Cherchez-le, sachant qu'il désire que vous le trouviez. Il ne veut pas seulement que vous touchiez son vêtement, mais que vous marchiez avec lui dans une communion constante. Donc il ne veut pas simplement que nous touchions son vêtement et que nous vivions séparés de lui, mais que nous soyons constamment attachés à lui. Constamment en train de tirer de lui la force, la vie et l'espérance. Pour que l'on puisse vivre cette vie de victoire. Et ici, dans le psaume 46, verset 11, nous avons l'appel, encore une fois, sous un autre aspect. Psaume 46, verset 11. « Cessez, dit-il, et reconnaissez que je suis Dieu. » Et la Bible seconde dit « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons un besoin, Dieu nous appelle à nous arrêter pour savoir qu'il est Dieu. Rappelez-vous, au tout départ, nous avions lu dans Conseil à l'Église, page 279, paragraphe 5, que nous avons besoin de prendre plaisir à contempler, à recevoir, à obtenir une connaissance de Dieu. Et ici, nous lisons que Dieu nous demande de nous arrêter, de nous tenir tranquilles pour savoir qu'il est Dieu. Et donc cette connaissance de Dieu dont nous avons besoin, elle s'obtient en nous arrêtant, en prenant du temps pour communier avec lui. Parce qu'aujourd'hui, le monde va si vite que nous passons à côté des opportunités de profiter des moments de calme et de repos et nous nous précipitons vers d'autres moments d'intense activité et de cette manière-là, Satan s'efforce de nous épuiser spirituellement. Et donc ici, l'appel, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. S'arrêter dans la nature, prendre un moment à l'écart du monde et contempler les leçons de la nature. Et comme c'est écrit dans l'esprit de prophétie, se connecter à travers la nature avec le Dieu de la nature. C'est le but, c'est que en nous arrêtant, nous puissions communier avec le Seigneur. En bénéficiant des leçons et du calme que nous fournit la nature. Des leçons d'obéissance implicite, de tranquillité, d'évolution constante, selon les lois ordonnées par Dieu, à travers les saisons, les choses suivent leur ordre établi par Dieu. Ces choses sont des leçons pour nous apprendre à suivre les conseils de Dieu. Ici, dans Instruction pour un service chrétien, à la page 304, paragraphe 1, je lis. Paragraphe 1 et 2. La vie du chrétien n'est pas faite d'incessantes activités ou de continuelles méditations. Les chrétiens doivent travailler avec ardeur au salut de ceux qui sont perdus et ils doivent aussi consacrer du temps à la contemplation, à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Il n'est pas bon de se trouver constamment sous la pression du travail et de l'agitation, car de ce fait, la piété personnelle est négligée et les facultés mentales et physiques sont lésées. Donc, qu'est-ce que c'était ces trois éléments? Oui, il faut que nous travaillions avec ardeur au salut des âmes, mais nous devons aussi consacrer du temps à la contemplation, à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. Ce sont trois aspects que l'esprit de prophétie nous fournit ici pour que l'on puisse voir que si nous nous sentons exténués spirituellement, c'est que nous avons peut-être manqué à l'un de ces aspects-là. Ou peut-être même aux trois. La contemplation, la prière et l'étude de la parole de Dieu. Donc la prière, voyez, la prière, c'est un échange avec Dieu dans notre temps de calme, de repos, de retrait. L'étude de la parole de Dieu, c'est simple. C'est étudier, sonder la parole de Dieu, la lire, la méditer. Tout ce qui est relié à notre échange avec le Seigneur à travers sa parole et la contemplation, cela se fait dans ces moments où nous avons la possibilité de respirer l'environnement et de puiser dans les bénédictions que le Seigneur a placées pour nous dans la nature. Paragraphe 2, tous ceux qui se mettent à l'école de Dieu ont besoin de temps pour communier avec eux-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Donc on avait trois aspects juste avant, et maintenant on a encore trois aspects, mais à l'intérieur de ces trois aspects. C'est-à-dire, nous avons besoin de temps pour communier avec nous-mêmes, avec la nature et avec Dieu. Et ça, c'est la prière et la contemplation et l'étude de la parole de Dieu. Tout est magnifiquement uni ici. Communier avec nous-mêmes. C'est-à-dire examiner où est-ce que nous en sommes. Prendre du temps de voir où est-ce que nous en sommes par rapport au Seigneur, par rapport à sa parole. Et communier avec la nature pour pouvoir communier avec le Dieu de la nature. Mais ça ne suffit pas de communier avec la nature, il faut que nous nous tournions vers les pages de l'Écriture où il n'y a aucun trait d'erreur et de contamination. Parce que comme nous le savons, aujourd'hui la nature est contaminée par le péché. Et donc, c'est vraiment seulement à la lumière de la parole que nous pouvons vraiment recevoir les justes leçons dans la nature. Donc ces trois-là sont indispensables. J'ai besoin de savoir où j'en suis. J'ai besoin de communier avec le calme ou même l'activité de la nature et de communier avec Dieu. Et toutes ces choses, vous verrez, elles sont en réalité inséparables. Mais elles sont ici distinctement énumérées dans l'esprit de prophétie pour que l'on voit et qu'on ne manque pas un de ces aspects dans notre expérience. J'ai besoin de communier avec moi-même, avec la nature et avec Dieu. Et souvenez-vous, avec la nature, cela veut dire que je transcende ce que je vois pour communier avec Jésus à travers sa création. Je continue. Ils sont appelés à révéler une vie qui ne s'harmonise pas avec le monde ses coutumes et ses pratiques, et ils ont besoin pour cela d'acquérir une expérience personnelle dans la connaissance de la volonté de Dieu. Individuellement, nous devons l'entendre parler au cœur. Quand toutes les autres voix se sont tues et que dans le calme, nous nous tenons devant lui, le silence même de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Cette préparation est efficace pour tout travail au service de Dieu. Au milieu de la foule haletante et des intenses activités de la vie, celui qui se trouve ainsi ranimé sera entouré d'une atmosphère de lumière et de paix. Il sera renouvelé dans ses forces physiques et mentales. Sa vie répandra un parfum par la révélation de la puissance divine qui touchera le cœur des hommes. Est-ce que vous voulez toucher le cœur des hommes? Nous avons besoin de faire cela. Et de nombreuses fois, vous savez, je l'ai fait. Je me suis arrêté. Alors même que j'avais le sentiment qu'il fallait que je continue, je me suis arrêté. Et je suis allé prendre du temps dans la nature pour communier avec moi-même, avec la nature et avec Dieu. Et lorsque vous puisez à travers ce silence de l'âme qui rend plus distincte la voix de Dieu, vous en ressortez rafraîchi. Qu'est-ce que c'est écrit ? Ranimé, et vous serez entouré d'une atmosphère de lumière et de paix. Parce que je bois aux sources éternelles. Je bois aux sources dont Jésus est le maître. Et dans Parabole de Jésus, Parabole de Jésus, la page 341, paragraphe 2. Nous avons cette petite citation pour venir directement connecter avec ce que nous venons de lire. Et je lis, c'est la communion avec Christ, le contact personnel avec un sauveur vivant qui permet à l'esprit, au cœur et à l'âme d'obtenir la victoire sur notre nature inférieure. Parlez à l'égaré d'une main toute puissante qui le soutiendra, de la pleine humanité de Christ qui a compassion de lui. Il ne lui suffit pas de croire à la loi et à la force, des choses incapables d'éprouver de la pitié et d'entendre les appels désespérés. Il lui faut une chaude poignée de main et la confiance en un cœur rempli de tendresse. Rappelez-lui d'une présence divine qui se tient constamment à ses côtés et veille sur lui avec un amour compatissant. Invitez-le à penser au cœur du Père qui est contristé par le péché, à la main toujours tendue du Père, à sa voix qui lui dit qu'il se saisisse de ma force, afin qu'il fasse la paix avec moi, et il fera la paix avec moi. Donc vous voyez, c'est là notre appel et la manière dont nous pouvons répondre à cet appel. C'est une communion, un contact personnel avec Jésus. Et c'est ça qui nous permettra d'obtenir la victoire sur notre nature inférieure que nous avions lue juste avant, avec tous ses travers et ses défauts et ses tromperies intérieures. Et donc nous qui sommes égarés, le Seigneur donne ici le conseil sur la manière dont nous pouvons réconforter ceux qui sont égarés. Et donc il nous montre le genre d'attitude qu'il adopte envers nous si nous nous sentons nous être égarés. Parler à l'égaré d'une main toute puissante qui le soutiendra, de la pleine humanité de Christ qui a compassion de lui. Il ne lui suffit pas de croire à la loi et à la force des choses qui sont incapables d'éprouver de la pitié et d'entendre les appels désespérés. Ça ne suffit pas de présenter les appels de Dieu, des exigences, la loi, la force, qui sont comme la gravité, qui n'ont pas vraiment la capacité de me régénérer, de me consoler, de me toucher intérieurement. Non, Jésus, il me présente sa chaude poignée de main. Il me rappelle la présence divine qui se tient constamment à mes côtés et qui veille sur moi avec un amour compatissant. C'est de cela dont nous avons besoin si nous voulons obtenir la victoire. Une communion avec Jésus, un contact personnel avec lui qui sera de nature à venir se substituer à toutes les choses qui ont occupé mon esprit. Et donc quand l'apôtre, il dit dans Philippiens chapitre 4, nous y retournons, quand il dit au reste de frères que toutes les choses qui soient pures, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Lorsqu'il dit cela, à quoi est-ce qu'il fait allusion? Il fait allusion à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, n'est-il pas toutes ces choses-là? Est-ce que l'amour de Dieu peut obtenir la victoire en moi? Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5? Allons-y, brièvement. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Mais quelle foi? Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est descendu et il est le Fils de Dieu. Dieu a donné son Fils. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé les pécheurs indignes et vils et méprisables qu'il a donné son Fils. Quel Fils? Le Fils qui est véritable, honnête, juste, pur, aimable, de bonne réputation, vertueux, digne de toutes nos louanges. Que toutes ces choses occupent vos pensées. Et c'est ce qu'il dit au verset 4, il dit « Bien-aimés, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le dis encore, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Comment ça, le Seigneur est proche? Vous savez, j'ai souvent lu cette parole et je me demandais, comment ça, le Seigneur est proche, c'est-à-dire il revient bientôt? Ce n'est pas ça que ça veut dire. Oui, il revient très bientôt, mais ce n'est pas ça la motivation du cœur principale. Ça en fait partie, mais qu'est-ce qui me rend doux? Qu'est-ce qui me permet d'avoir des pensées qui ne sont simplement que ces pensées pures là que l'apôtre a énumérées? C'est que il est proche de moi. Il se penche sur mon cœur, éprouvé, désespéré, et il me dit, regarde à moi et sois sauvé. Veillez et priez. Et donc, à la lumière de tout cela, frères et sœurs, puissions-nous faire l'expérience littérale de ce qui est écrit dans le psaume chapitre 16. Où Jésus lui-même nous est présenté comme disant « Tu me feras connaître le chemin de la vie. Tu me guideras pas à pas, comme nous l'avons lu. Il y a un rassasiement de joie devant ta face et des délices à ta droite pour jamais. » C'est-à-dire que s'il est mon plaisir, je ne chercherai pas d'autre plaisir. Et donc nous aurons cette marche avec Dieu, cette communion intelligente avec Dieu, ce contact personnel avec un sauveur vivant qui nous permettra d'obtenir la victoire. Comme nous avons lu, c'est la communion avec Christ, le contact personnel avec un sauveur vivant qui nous permet à l'esprit, au cœur et à l'âme d'obtenir la victoire sur notre nature inférieure. Il n'y a que ça. Seul l'amour éveille l'amour, comme c'est écrit dans le livre Jésus-Christ. Seule cette communion avec ce Sauveur compatissant peut me permettre d'obtenir la victoire. Et c'est la foi qui obtient la victoire. La foi en Jésus. Et la foi de Jésus. Donc puissions-nous trouver ce chemin de la vie qu'il nous fait connaître et ce rassasiement de joie en sa présence et ses délices à sa droite pour jamais. Puisse le Seigneur s'approcher de nous et nous accorder cette expérience à mesure que nous nous saisissons de sa main et que nous ne laissons pas sa main glisser de la nôtre en laissant nos pensées nous échapper. Mais concentrons-nous pour faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, c'est-à-dire de marcher avec lui, de communier avec lui. C'est ma prière. Amen.